Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. Devant les micros de Canal Académie, pour une nouvelle émission Un jour dans l'histoire, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Bernard Cottret. Bonjour Bernard Cottret.
Bonjour Virginia.
Bernard Cottret, vous êtes professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes membre senior de l'Institut universitaire de France. Vous y occupez la chaire de civilisation des îles britanniques et de l'Amérique coloniale. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, notamment sur la Grande-Bretagne, dont Cromwell, un livre qui a reçu le prix Budget au sein même de cette académie, l'Académie des inscriptions et belles lettres. Je ne me trompe pas, Bernard
Cottret. Oui, c'est exactement ça. Il y a quelques années maintenant.
Voilà, oui, puisque la parution de ce livre sur Cromwell date de 1992. Vous avez publié ensuite Henri VIII, publication en 1999, et L'histoire de l'Angleterre, ce fut une publication qui remonte à pas très loin, en 2007. La Révolution américaine a été primée également dans cette auguste maison, primée par l'Académie française, et votre ouvrage consacré à Jean-Jacques Rousseau, paru chez Perrin, lui a été primé par l'Académie des sciences morales et politiques, une académie qui est fondatrice de Canal Académie, cette première radio francophone sur le web qui couvre les 5 académies de l'Institut de France.
Je suis très, 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 très honoré de me retrouver ici. Est-ce que je peux ajouter, Virginia, que le Jean-Jacques Rousseau, je l'avais écrit avec mon épouse ?
Ah, très bien, c'est
une
coécriture donc avec Monique Cottret. Racontez-nous votre compagnonnage auprès de Jean Calvin, car vous êtes donc l'auteur également d'une grande biographie de Calvin qui a été traduite en 7 langues, que j'ai essayé de me procurer auprès des éditions Lattès et Payot et qui n'a pas encore été rééditée. C'est quelque chose qui est en cours certainement.
Oui, alors le livre est effectivement en cours de réédition et je crois que comme nous sommes en 2009 et qu'il y a donc un 500e anniversaire de la naissance de Calvin, tous les exemplaires qui étaient disponibles sont partis et que donc il faut évidemment conseiller vivement aux éditeurs de ressortir ce livre.
Alors ce compagnonnage auprès de Jean Calvin, à quand remonte, si vous vous en souvenez encore, la première rencontre avec Cauvin ?
Alors la première rencontre avec Cauvin, effectivement, Calvinus est une latinisation de Cauvin. Ma première rencontre, en fait, remonte à la fin des années 1970 et c'est une rencontre essentiellement intellectuelle. J'avais lu un livre qui était paru, je crois, chez Labor et Fides et qui s'appelait « Calvin, homme d'église ». Et c'était un livre qui était un recueil, en fait, de plusieurs textes de Calvin. Il ne s'agissait pas de l'Institut de la religion chrétienne dont nous parlerons sans doute, mais il s'agissait de petits textes de Calvin. Et en particulier, il y avait un texte d'un accord qui portait sur la question de la Sainte Cène et ce texte appelait de son nom savant le Consensus Tigurinus. Et donc ce texte du Consensus Tigurinus, qui est un grand texte à mon avis dans l'histoire intellectuelle française, qui m'a véritablement fait aimer Calvin parce que j'ai découvert, j'allais dire, un des tout premiers intellectuels de la langue française. Je crois que ma passion pour Calvin, c'est beaucoup plus encore une passion intellectuelle qu'une passion d'ordre religieux ou théologique. Je crois que c'est vraiment le Calvin intellectuel, le Calvin écrivain que j'ai aimé, quitte évidemment dans un deuxième temps à me passionner pour sa théologie, mais dans le fond, c'est un Calvin philosophe que j'ai découvert au départ.
Êtes-vous protestant, Bernard Cottret ?
Oui, parfaitement protestant. Je suis un protestant d'adoption, comme un certain nombre d'autres. Ce qui ne veut pas dire que je me suis, entre guillemets, converti au protestantisme. C'est une expression, personnellement, que j'aborde pour me définir, parce que je crois que mon protestantisme est de l'ordre de la longue et lente imprégnation, que la conversion, en fait, est une affaire trop sérieuse pour relever des seules églises ou des seules confessions religieuses. Donc, je me suis jamais converti au protestantisme, je me suis retrouvé protestant.
Dans ces retrouvailles protestantes, est-ce que Jean Calvin a une responsabilité quelque part ?
Il a une responsabilité morale. Disons qu'il est en partie responsable de cette évolution.
On trouve sous votre plume, Bernard Cottret, un article passionnant dans le mensuel Histoire, intitulé « Les secrets de Calvin ». Un article au cours duquel vous vous proposez de révéler à vos lecteurs quel homme se cache derrière la religion nouvelle qui porte le nom de Calvin. Parce que pour atteindre la véritable personnalité de Calvin, ne faut-il pas nous méfier justement de toutes ces fausses pistes, des caricatures que ses opposants, et on peut dire que Calvin en a eu, ont essayé de nous communiquer au cours des siècles comme étant son image vraie, je pense à la contre-réforme. Alors vous commencez cet article en citant judicieusement le célèbre aphorisme, vous savez, d'Alfred Loisy, « Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue ». Et Bernard Cotteret, vous écrivez, il est arrivé pareil, mésaventure à Calvin. Il a voulu annoncer le royaume, il a fondé le calvinisme. Mais reste une question d'historien. Alors, je vous cite, Bernard Cotteret, comment Calvin est-il devenu Calvin? Ou encore, comment le calvinisme vint-il à Calvin? Alors, écoutez, Bernard Cotteret, c'est ce que nous allons proposer aux éditeurs de Canal Académie, de savoir, grâce à votre présence devant les micros, qui a vraiment été Calvin. Calvin, alors vous l'avez dit, c'est pas son nom, un nom d'adoption, mais voulu par lui-même ou c'est la tradition qui lui a imposé le nom de Calvin ou c'est...
Ah, je crois qu'il a totalement assumé. Et ce qui est très intéressant, c'est que le nom Calvin, donc qui est un mot latin, Calvinus, enfin faudrait-il dire, Calvin effectivement, c'est un humaniste, c'est-à-dire que Covin, c'est le patronyme, c'est le nom de sa famille, et en devenant Calvin, en fait, il a fait le choix de l'humanisme. Alors ce choix de l'humanisme, il est antérieur en fait à sa conversion. Il y a un fameux épisode de conversion qu'on n'arrive pas à dater avec une très très grande précision. Mais lorsqu'il se convertit, je dirais un mot tout à l'heure sur sa conversion, lorsqu'il se convertit, il est déjà humaniste. Donc d'abord, il a découvert les belles lettres, il a aimé les belles lettres. Et une fois qu'il a maîtrisé effectivement les belles lettres, en particulier qu'il s'est attaché à la personne de Sénèque, cette culture latine lui est très très familière, peut-être plus encore la culture latine en l'occurrence que la culture grecque, c'est à ce moment-là effectivement qu'il y a eu une deuxième phase et qu'il y a eu son adoption de la réforme. Alors ce qui m'intéresse dans cet épisode de la conversion de Calvin, je vais revenir un peu sur un parcours personnel puisque vous m'invitiez à le faire en me demandant si j'étais protestant de naissance en quelque sorte ou protestant d'adoption. Ce qui m'intéressait en relisant le texte de Calvin, c'est que Calvin ne s'est jamais converti au protestantisme. Il ne s'est pas converti au protestantisme pour une raison très simple, c'est que le protestantisme était en train de se constituer en tant que tel. Et donc, lorsqu'il parle de conversion, j'allais dire, c'est un phénomène beaucoup plus fort en réalité qu'une sorte de simple changement confessionnel ou doctrinal. C'est véritablement la rencontre de Dieu. Et je crois que la conversion chez Calvin n'est pas une conversion à une doctrine, bien évidemment, mais c'est quelque chose d'encore plus fort. C'est d'un seul coup, il s'est senti appelé.
Conversion subite à la vraie piété.
Absolument, c'est l'expression qu'il utilise.
Comment vivait-on la foi à cette époque? Est-ce que, comme aujourd'hui, en 2009, le doute était présent? Est-ce qu'on peut le savoir?
À la fois, on sait beaucoup de choses et on sait peu de choses. On sait beaucoup de choses sur des individus comme Calvin, parce que ce sont des individus d'exception. Ils avaient accès à l'écriture, donc c'est quand même merveilleux, parce qu'on peut les lire à 4-5 siècles de distance, avec une facilité d'ailleurs tout à fait déconcertante. On sait beaucoup moins, évidemment, ce qu'était la foi des plus humbles. Mais on en a quand même un certain nombre d'indications. Et je crois que les historiens qui ont le mieux posé de la foi, qui d'ailleurs est membre évidemment de cet institut, c'est Jean Delumeau. Et je crois que Jean Delumeau a très bien montré comment toute une religion traditionnelle était une religion de la peur, c'est sa propre expression. Et je crois que beaucoup d'hommes du XVIe siècle baignaient du moins dans une religion qui était une religion faite de crainte. Luther lui-même, sur lequel j'écris un ouvrage, enfin, disons que j'ai beaucoup parlé de Luther dans mon histoire de la réforme protestante, Luther lui-même décrit une religion de sa jeunesse qui était vraiment une religion de crainte épouvantable. Et je crois que la religion dominante au XVIe siècle était une religion faite de crainte, et que la grande aventure de la réforme protestante dans sa pluralité, ça a été de sortir, je crois, de cette terreur, panique qu'inspirait le salut, et de rappeler que le salut, justement, ça devait être l'expérience absolument inverse, c'est-à-dire l'expérience de la confiance. Et qu'est-ce que c'est que la foi sinon la confiance? Et je crois que Luther et comme Calvin, en fait, ont fait cette expérience de la confiance en Dieu.
Le sentiment de la culpabilité, la faute originelle, un sentiment apocalyptique aussi.
Et je crois qu'il y avait tous ces éléments qui étaient mêlés. Et si je peux me permettre d'arriver à une des questions fondamentales que l'on pose immanquablement à propos de Calvin, cette redoutable doctrine de la prédestination, certains sont promis au salut éternel et d'autres double prédestination et d'autres à la damnation également, damnation éternelle. Je crois que très souvent, ce que l'on ne voit pas, c'est que la première partie de cette doctrine, qu'on peut trouver redoutable d'ailleurs, je ne suis pas là pour justifier cette doctrine, mais la première partie de cette doctrine est quand même profondément apaisante. C'est-à-dire qu'effectivement, un certain nombre d'individus sont sauvés, j'allais dire sont sauvés malgré eux, ne sont pas sauvés parce que l'Église les a sauvés, mais sont sauvés parce que Dieu, véritablement, s'est penché sur eux. Et je crois que ça, c'est véritablement l'expérience initiale de Calvin, que lui-même est sorti, et je crois que ceux qui l'entouraient également, sont sortis d'une religion de la crainte, d'une religion de la peur, d'une religion de la terreur, et que leur expérience est déjà expérience du salut. C'est exactement ce que décrit d'ailleurs Luther quelques années auparavant, dans ce qu'on a appelé l'expérience de la tour, ce moment où il s'aperçoit que dans le fond, il est sauvé malgré lui.
Oui, c'était cette espèce de chape moyenâgeuse dont on a voulu sortir, dont on a voulu soulever la trappe.
Et qui revient au galop, un peu à la façon du naturel. Et effectivement, la religion de la peur, dans le fond, c'est une religion qui se reconstitue dans le protestantisme, comme dans un certain catholicisme, voire ailleurs encore, avec une facilité, d'une certaine façon, déconcertante. Et je crois que la peur est, et ça, Jean Delumeau le montre admirablement, c'est aussi un instrument de domination. Et c'est pour ça, je crois, que la religion de la peur est véritablement quelque chose d'effrayant.
Par rapport au parcours de notre ami Calvin, parlez-nous de ses origines, de sa famille. Son père a été maltraité aussi par cette église au service de laquelle il s'est placé.
Alors, le père de Calvin, qui s'appelait Gérard Covin, le père de Calvin est une personnalité très attachante, dont on sait dans le fond relativement peu de choses. C'est véritablement l'homme de la promotion sociale de la famille des Covins. Les Covins sont des gens assez modestes, qui, vous savez que donc Noyon est une ville qui se trouve dans une boucle de l'Oise, et les Covins, depuis des générations, sans doute depuis des siècles, avaient un destin qui était lié à cette belle rivière de l'Oise.
Le grand-père Tonnelier.
Tonnelier, donc justement en bordure de rivière. Et Gérard Covin fait des études de droit et il entre au service de l'Église comme juriste. Et il va y avoir des conflits dans l'Église, hier comme aujourd'hui, et on a besoin en l'occurrence des services d'un homme de loi. Et il y a un conflit en particulier entre l'évêque de Noyon, qui est quelqu'un d'assez sympathique, Monseigneur d'Angest, qui d'ailleurs va tout à fait pousser le petit Calvin à faire des études. Il est en partie responsable de la réussite ultérieure de Calvin. Et donc, il va y avoir un conflit qui va mettre aux prises l'évêque de Noyon et le chapitre cathédral. Et apparemment, Gérard Covin aurait été une victime collatérale de ce conflit parce qu'il a été excommunié.
C'était grave.
Ah, les hommes d'église peuvent être redoutables, vous savez.
Et l'un des fils, donc l'un des frères de Calvin, va entrer en résistance par rapport à cette église.
Également.
Donc ça commence mal pour le jeune.
Il est excommunié également. C'est cette religion de la peur dont nous parlions. Et alors, là où son père me paraît tout à fait extraordinaire, le jeune Calvin, dans le fond, il est, comme il avait fait des études et comme beaucoup de jeunes gens doués de sa génération, quand on s'intéressait aux études, qu'est-ce qu'on faisait ? On devenait prêtre. Enfin, ça paraissait tout à fait
logique. On faisait de la théologie.
Et donc, le jeune Calvin s'imagine qu'il va faire des études de théologie et devenir prêtre. Et à un moment, son père s'adresse à lui et lui dit « Écoute, non, arrête !» Tout de suite, la prêtrise, c'est terminé. Tu vas faire des études de droit, comme ton père, d'une certaine façon. Et tu verras, tu ne le regretteras pas. Et il décrit tout ça, Jean Calvin, ultérieurement, avec des formules très, très imagées. Et on s'aperçoit, effectivement, à le lire, que ça a été véritablement le moment peut-être décisif dans sa carrière, en tout cas dans sa vie intellectuelle autant que spirituelle, parce que Calvin n'a jamais fait d'études de théologie et n'a jamais été prêtre. Ce qu'il distingue radicalement de Luther, qui est quand même un ancien moine, qui a été formé de façon très, 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 très forte, d'ailleurs, sur le plan de la théologie. Et Calvin n'a pas fait d'études de théologie et Calvin n'a pas été prêtre. Et à mon avis, ça va expliquer ce qui, personnellement, m'attire tant chez Calvin, moi qui suis redoutablement laïque, si je peux me permettre une semi-confidence. Ce qui m'attire tant chez Calvin, c'est précisément cela. C'est que Calvin n'est pas un prêtre, c'est que Calvin a fait une théologie qui est une théologie de laïque, et il a fait une théologie, allons jusqu'au bout, qui est une théologie de juriste. C'est-à-dire que ce sont ses études de droit qui lui ont permis de comprendre, en fait, la Sainte Écriture. Alors là, évidemment, on a quelque chose de puissamment original, et je crois que ce qui rend encore à l'heure actuelle la théologie de Calvin si attachante, c'est précisément de ne pas avoir été celle d'un prêtre, de ne jamais avoir été celle d'un prêtre, et d'avoir été celle d'un homme de loi. C'est extraordinaire parce que Calvin est un laïc, parce que Calvin est un moderne, parce que Calvin pense la cité. Ce qui fait qu'à mon avis, il y a une importance de Calvin qui est considérable en dehors du protestantisme, en dehors des milieux strictement religieux. Je crois que toute notre tradition politique et intellectuelle a été façonnée d'une façon plus ou moins directe par l'influence de Calvin. Il y a un autre auteur auquel je pense et qui évidemment a été très très marqué par sa ville natale de Genève, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau qui théologiquement n'entretient pas des liens d'une proximité évidente avec Calvin, mais qui sur le plan de son outillage mental, sur le plan de sa pensée, sur le plan conceptuel, est évidemment un héritier de Calvin. Et d'une certaine façon, tous les traités sur la société que Jean-Jacques Rousseau a pu écrire sont d'une certaine façon d'imprégnation calviniste.
Restons encore un peu dans la sphère privée de Jean Calvin. Il perd sa mère jeune, à 6 ans, je crois.
Oui, en 1515. Donc il a effectivement 6 ans. On sait très peu de choses de cette mère. Il en parle dans le traité des reliques dont je viens d'assurer la réédition pour les éditions de Paris. Et dans ce traité des reliques, qui est un texte très moqueur par rapport à un certain nombre de traits de la religion de son temps présentés comme superstitieux, dans ce traité des reliques, il y a une demi-phrase où il est question de sa mère et où il dit que... vous savez, si sa mère est morte quand il avait 6 ans, on ne sait pas exactement à quel moment se situe cette scène, mais quand même une scène très précoce dans sa vie. C'est un souvenir de 3 ou 4 ans, peut-être 5 ans. Donc avec sa mère, il est allé à l'abbaye d'Ourscan, qui est à côté de Noyon, et que là, il a embrassé dévotement le crâne de Sainte-Anne. Et je trouve que ça, c'est tout à fait extraordinaire, en disant évidemment que c'était une erreur qui ne recommencerait plus. Mais je trouve que c'est tout à fait extraordinaire de la part de Calvin et qu'on s'apitoie en fait en même temps un peu sur ce personnage de mère qui apparaît là, alors même qu'il a rompu avec ce qui était aussi la religion de sa mère. Mais il y a une sorte de suavité dans cette évocation que je trouve tout à fait remarquable.
L'amour de sa vie portera le prénom d'Idolette.
Alors, il y a une autre femme, évidemment, dans la vie de Calvin, c'est son épouse. Je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup d'autres tout à fait entre nous. Je sais que quand j'avais préparé ce numéro de la revue L'Histoire que vous citez, les dames de la revue m'avaient dit très aimablement, nous avons vraiment très très bien travaillé ensemble, m'avaient dit maintenant, parlez-nous de Calvin et les femmes. J'ai dit, vous savez, ça va être assez court et ça va être assez simple. Et donc, il y a effectivement sa mère, il y a effectivement ce personnage d'Idlette, avec qui il va vivre pendant une dizaine d'années. C'était un second mariage de la part d'Idlette, qui avait d'abord épousé en première noce un anabaptiste, et qui meurt au bout de quelques années, non sans avoir donné naissance à un enfant qui n'a pas survécu. Et c'est assez émouvant de voir ce personnage de Calvin, qui en fait se marie un peu par obligation. Pourquoi est-ce que Calvin s'est marié? Alors, la première raison, c'est très fort au XVIe siècle, c'est qu'il fallait surtout ne pas faire comme les catholiques. Donc, il fallait ne pas suivre le modèle du clergé catholique. Donc, il fallait que les pasteurs se marient ou se mariassent, si vous me permettez le subjonctif passé. Je crois qu'autour de ce micro, on peut encore utiliser des subjonctifs passés, ça fait plaisir. Mmh. Donc, il fallait que les pasteurs se mariassent, ce qu'ils faisaient pour la majorité d'entre eux, de façon justement à bien montrer qu'un pasteur protestant n'était pas un prêtre catholique. Donc, ça, c'est la première chose.
Et donc, Jean Calvin en fait la démonstration lui aussi.
Il se marie parce qu'il faut justement montrer qu'il est pasteur.
Mais il y a une profonde affection entre eux.
Ça n'empêche pas l'affection. Mais enfin, je veux dire, le motif premier, malheureusement, c'est un peu celui-là. Et la seconde chose, alors là, on va dire, je ne sais pas s'il y a des féministes qui vont nous écouter, mais pour certaines oreilles féministes, ça va paraître un peu choquant, mais enfin, on est quand même au XVIe siècle. Un homme tout seul, si vous voulez, il ne sait pas très bien s'occuper de ses affaires. Donc là aussi, il fallait que Calvin ait une épouse. Et je crois qu'Idlette a été heureuse en sa compagnie. Ils se sont aimés, ça c'est absolument sûr, même si évidemment tout cela est resté d'une extraordinaire discrétion et Calvin ne parle pratiquement jamais de tout cela.
Donc les études du jeune Calvin se passent à Paris, Orléans, Bourges. Et là, vous citez une date importante dans ces créneaux-là. 1530, la confession d'Augsbourg. Quelques mots sur cette confession.
Alors, le luthéranisme se constitue dans l'espace germanique. Luthéranisme qui est évidemment en grande partie centré sur la personnalité même de Luther. Et deux confessions distinctes apparaissent dans l'espace germanophone. Le catholicisme et puis le luthéranisme qui se poursuivra jusqu'à aujourd'hui. D'une certaine façon, cette évolution n'a pas connu d'équivalent strict dans l'ère francophone. D'une part parce que le protestantisme, du moins en France, a toujours été un phénomène minoritaire, il est resté minoritaire. Et deuxièmement parce que nos amis protestants réformés se réclament assez rarement de Calvin. C'est ce qui m'a beaucoup frappé en travaillant sur Calvin. L'adjectif calviniste est relativement peu fréquent pour se définir. Et puis il y a une sorte de recul, je dirais, devant tout culte de la personnalité, dont Calvin est lui-même responsable. C'est-à-dire Calvin s'est effacé du calvinisme très, très, très rapidement. Il n'aimait pas le mot calviniste. D'ailleurs, personne n'aimait le mot calviniste autour de lui. Et vous savez que l'un des jeux de mots qu'on trouve à l'époque, en particulier sous la plume de Ronsard, c'est calvinal. L'adjectif n'étant pas calviniste, mais calvinal. Et c'était calvinal pour rimer avec cannibale. Ce qui, évidemment, partait sans doute de sentiments un peu négatifs. Donc Calvin n'a jamais voulu être calviniste. Je ne sais pas si Luther a voulu être luthérien, je ne le crois pas en tant que tel, mais en tout cas Calvin détestait le mot calvinisme et le mot calviniste. Ce qui fait que le calvinisme s'est un peu constitué malgré Calvin et en réaction contre lui d'une certaine façon.
Alors, par rapport à cette date de 1530, 6 ans après, le grand humaniste et théologien Érasme meurt. Calvin a à ce moment-là 25 ans. Et sans parvenir à combler le fossé qui se creuse inexorablement entre les catholiques et les protestants, donc Calvin va prendre acte de cette rupture. On n'a pas réussi à trouver le moyen de communiquer, le moyen de s'entendre, le moyen de se retrouver. Et Calvin va devoir choisir. Il faut être soit catholique, soit protestant. Et alors, vous le décrivez de caractère naturel un peu sauvage, un peu honteux, amoureux de sa tranquillité, fort en thème, besogneux, honnête, érudit, un peu cuistre, dites-vous même jusque-là.
Oui,
vous
oui,
allez même
oui,
jusque-là.
Oui.
Et vous nous avez parlé tout à l'heure de sa conversion. C'est cette conversion qui va en décider autrement. C'est-à-dire que Jean Calvin va apparaître là, il va prendre sa décision. Ça se dessine rapidement ou il faut plusieurs années?
Ce qui est extraordinaire chez Jean Calvin, c'est la discrétion même du personnage, qui n'aime pas parler de lui, qui parle très peu de lui, qui en parle parfois de temps en temps. Il y a quand même quelques récits qui sont des récits à la première personne. Mais il faut reconstituer beaucoup de choses parce que Calvin fait partie de ces auteurs, je crois qu'il y en a encore jusqu'à l'heure actuelle, qui s'effacent véritablement derrière leur message. Donc Calvin pense que son message est tellement important que sa personnalité, dans le fond, vient toujours en second plan. Mais il y a un phénomène, je crois, qui est beaucoup plus fondamental dans le cas de Calvin, dans le cas de cet effacement, c'est que ce qui importe véritablement, c'est cette force qui l'envahit. Ça, c'est l'expérience première pour Calvin, c'est qu'il est d'une certaine façon dépossédé de lui-même, qu'effectivement, il est comme beaucoup d'entre nous, en tout cas, moi, je peux le dire à la première personne, ce que j'aime par-dessus tout, c'est ma quiétude, c'est ma tranquillité, ce sont mes livres, c'est d'écrire des livres, en lisant d'autres livres, c'est de mener une vie d'intellectuel, d'une certaine façon, je le revendique, dans ma tour d'ivoire. Et je crois que Calvin aurait aimé être dans sa tour d'ivoire, et il n'a pas pu. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu être dans sa tour d'ivoire? Parce qu'il y a cette espèce de sollicitation qu'il interprète évidemment comme providentielle, mais sollicitation qui lui vient aussi des autres. Je veux dire que Calvin ne dit pas « je suis en communication directe avec Dieu qui me parle », c'est pas du tout ça. Mais il a le sentiment effectivement d'un appel, et chaque fois qu'il essaie de se dérober à cet appel, eh bien il a l'impression qu'il est rattrapé par Dieu. Et c'est là qu'il évoque, pour définir sa vocation, cet appel, une figure que je trouve absolument admirable dans la Bible, que nous aimons tous les deux évidemment, c'est la figure de Jonas. Parce que Jonas, c'est ce prophète qui dans le fond reçoit un appel, qui essaie de se dérober à cet appel et qui s'aperçoit qu'il ne peut pas se dérober à cet appel. Et que même dans le ventre du grand poisson, eh bien Dieu lui parle toujours et lui donne toujours un certain nombre de directives. Et Calvin, c'est exactement l'expérience de Jonas. Et lorsqu'il va à Strasbourg, lorsqu'il va à Genève, à chaque fois, on lui dit « Calvin, tu dois rester, tu dois… »
Farel joue ce rôle-là.
Farel joue ce rôle-là. Busser joue ce rôle-là à Strasbourg. Et c'est absolument extraordinaire de voir cette réitération de l'expérience de Jonas. Ce qui veut dire que Calvin est un personnage intéressant parce que c'est un personnage inclassable. Ça n'a jamais été un prêtre. J'allais dire, de certaine façon, c'est à peine un pasteur, du moins si on voulait donner au mot pasteur un sens un peu trop clair ou un peu trop classique, puisque vous savez que Calvin n'a jamais reçu la moindre consécration pastorale. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a jamais reçu la moindre consécration pastoral? Parce que justement, son ministère est d'ordre prophétique. Et je crois que c'est très nettement marqué chez lui. Il est en fait une sorte de nouveau Jonas. Non pas qu'il ait voulu jouer à Jonas, mais il s'est trouvé investi de cette mission comme Jonas lui-même l'avait été.
Il y a cette fameuse église des Cordeliers avec le texte des Béatitudes et tout va un peu partir de là. Et il va devoir quitter Paris. Racontez-nous l'anecdote du texte des Béatitudes dans cette église des Cordeliers. Qu'est-ce qui fait scandale?
Non loin d'ici, vous avez évidemment le rond-point de l'Odéon avec la statue de Danton. Statue de Danton qui est là parce que c'est à 100 mètres de là que se trouvait le club des Cordeliers pendant la Révolution française. Et ce club des Cordeliers avait été le lieu plusieurs siècles auparavant d'une autre prise de position tout à fait extraordinaire. C'était lors de la rentrée de l'Université de Paris. On avait repris le texte des Béatitudes et qui est un texte qui se trouve dans les évangiles en plusieurs versions, en particulier dans les synoptiques. Mais ce qui est évident, c'est que c'est un des textes que moi je trouve les plus puissamment révolutionnaires, évidemment, de l'évangile, puisqu'il inverse toutes les valeurs dominantes, toutes les valeurs reçues, heureux les pauvres, heureux les miséreux, enfin, il y a vraiment une volonté de prendre le contre-pied des valeurs reçues dans la société du temps ou dans la société de tout temps. Et donc, on reprend ce texte des Béatitudes avec une intention critique par rapport à l'Église, en disant « Heureux les pauvres, regardez où vous en êtes. » Enfin, on ne peut pas véritablement parler de pauvreté quand on voit ce qu'est devenu l'Église au XVIe siècle. Et alors, à ce moment-là, il y a une espèce de terrible mouvement de répression qui s'abat sur Paris, sur ceux qui sont en train de devenir les protestants, qui ne se définissent pas encore véritablement comme protestants. Et Calvin s'enfuit parmi d'autres. Et on s'est demandé si Calvin n'était pas l'un des auteurs, évidemment, de ce commentaire.
C'est Angoulême qui l'accueille ?
Alors, il va un petit peu partout. Il passe effectivement par Angoulême. Il va à Nérac.
Voir Marguerite.
Il fait une espèce de périple comme cela. Il voit en particulier le vieux Lefèvre d'Étaples. C'est la seule rencontre avec Lefèvre d'Étaples. Et puis finalement, il arrive à Bâle. Et en 1536, donc à Bâle, il publie la première version de son Institution de la religion chrétienne, qui est encore une version en latin.
C'est encore la version latine.
Sa première, qui est encore très luthérienne d'inspiration.
Donc ensuite, il part à Genève. C'est le premier séjour à Genève. Alors, sur l'invitation de Farel ?
Oui, tout à fait.
De 1536 à 1538. Et là, c'est le premier échec. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?
Ah, il ne supporte pas les Genevois. D'ailleurs, c'est réciproque. Les Genevois ne le supportent pas non plus. Parce que Calvin arrive dans une ville qui est en pleine révolution. La réforme genevoise est très passionnante parce que Genève est une ville qui se passe de son prince évêque. Monseigneur Pierre de la Baume, l'évêque de Genève, est chassé de sa ville sans qu'on sache quoi mettre à sa place d'une certaine façon. Donc on va reprendre la cité sur le plan législatif, réinstituer un comportement des citoyens, des droits des citoyens, etc., dans la ville elle-même, et puis aussi sur le plan ecclésiastique, sur le plan religieux, parce que mettre à la place de cet évêque ? Et donc les Genevois ont bien proclamé que ce qui était important, c'était de mettre l'évangile à la place occupée naguère par l'évêque. Mais enfin, l'évangile, oui, mais selon quelle modalité ? Je veux dire qu'une fois que vous avez dit ça, il faut encore trouver pratiquement ce que ça va donner. Et alors, donc les Genevois ne savent pas exactement ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils doivent faire. Et Farel dit, il y a un jeune homme plein d'avenir. C'est Jean Calvin, et on fait appel à Calvin. Et donc, avec cette mission, en quelque sorte, de donner véritablement une doctrine solide à ce qui reste relativement nébuleux dans les esprits, avec beaucoup de bonne volonté, mais sans avoir encore vraiment une armature théologique très forte. Et donc, Calvin, sa mission à Genève, ça va être de fournir à cette deuxième réforme, à Genève et puis ailleurs dans le monde, ça va être de fournir à cette deuxième réforme qui ne se retrouve pas dans le luthéranisme, de lui donner véritablement son armature conceptuelle.
Alors, donc, échec après 1538, il se réfugie à nouveau à Strasbourg.
Merveilleuse ville, Strasbourg. Merveilleuse maintenant, mais merveilleuse déjà au XVIe siècle. Et au XVIe siècle aussi, c'est une ville qui est une ville de carrefour, évidemment, entre la France et l'Allemagne.
Et ensuite, de nouveau, Calvin retourne à Genève, et cette fois-ci définitivement, puisqu'il y mourra en 1564. Donc de 1541 à 1564, il va prendre ses responsabilités à la tête de la ville de Genève. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le Calvin de 1536-1538 que le Genevois n'approuvait pas, et vous le disiez tout à l'heure, c'était réciproque de la part de Jean Calvin. Qu'est-ce qui se passe pour que cette intrusion de Calvin ou cette invitation de Calvin se passe bien et soit bien vécue, ou alors soit supportée?
Ça s'est toujours passé assez mal en réalité.
Oui, c'est ça. Difficilement.
Difficilement.
Avec des épreuves.
Avec des épreuves. Alors, pourquoi est-ce que Calvin a du mal à supporter les Genevois ? Parce que je pense que Calvin est l'homme quand même d'une conviction très forte et qui souhaiterait que cette ville de Genève se montre à la hauteur un peu des principes qu'elle affirme. Et donc, les Genevois ont la nuque raide, si je peux me permettre cette expression de l'Ancien Testament. Et donc, il y a, entre Calvin et les Genevois, de multiples motifs d'incompréhension. Parfois, ça porte sur des choses qui sont des choses assez secondaires pour nous, mais qui à l'époque, évidemment, sont très importantes. Par exemple, au lieu de venir au culte, il faut dire que les cultes au XVIe siècle étaient très longs. Les cultes duraient 2h30. On allait au culte le dimanche matin, on retournait au sermon, etc., l'après-midi, et puis en semaine. Enfin, c'était terrible. Plus personne, à l'heure actuelle, ne supporterait des cultes de cette longueur. Eh bien, il y avait un certain nombre de Genevois qui s'étaient aperçus que, dans le fond, on pouvait jouer aux quilles. Alors, jouer aux quilles, déjà, Calvin n'aimait pas du tout que l'on jouât aux quilles au lieu de venir au sermon. Mais accessoirement, on faisait du bruit en jouant aux quilles. Surtout quand on jouait aux quilles, on voit toujours les lieux à Genève, enfin encore qu'ils étaient légèrement modifiés, mais sur le parvis de la cathédrale, parce que le meilleur endroit pour jouer aux quilles à ce moment-là, c'était le parvis de la cathédrale. Et alors, évidemment, ça faisait du bruit. Et donc, Genève était perturbée par ce genre de choses. Alors, il y avait aussi des messieurs ou des dames qui avaient des mœurs qui paraissaient un peu lestes, le un peu leste étant très relatif, mais enfin il faut dire que pour l'esprit de Calvin, on tomberait vite dans ce genre de travers. Donc il y a une police des mœurs, une police des comportements, qui n'est pas d'ailleurs uniquement le fait du calvinisme, je dirais qu'elle est le fait du XVIe siècle. C'est-à-dire que le XVIe siècle est un siècle dans lequel on voit basculer un certain nombre de comportements. Le clergé catholique, de la même façon, essaie d'instaurer un certain nombre de principes dans la vie quotidienne. Donc ça n'est pas propre au calvinisme. Il y a beaucoup de choses dont on dit c'est le calvinisme, c'est le rigorisme calviniste. Non, le rigorisme, il est dans le XVIe siècle même. Et donc il y a une volonté de moraliser le comportement des citoyens. Alors là où c'est très drôle quand même dans le cas de Genève, c'est une anecdote que je citais dans mon livre et que j'ai reprise dans le numéro de la revue L'Histoire, c'est qu'il faut évidemment éliminer tout ce qui reste du catholicisme à Genève, bon, du papisme comme on disait à Genève. Alors parmi les griefs n'invoquent contre certains Genevois, il y a le fait de fabriquer des chapelets. Donc on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de Genevois qui continuent à fabriquer des chapelets, un chapelet en bois. Alors évidemment, on les fait comparaître en consistoire. On dit, mais enfin, pourquoi est-ce que vous fabriquez des chapelets? Est-ce que vous vous rendez compte quand même de ce que vous faites? Vous êtes véritablement dans l'idolâtrie papiste la plus flagrante en fabriquant des chapelets. Et alors ils répondent pour se dédouaner, je trouve que c'est admirable. Ah oui, mais nous ne travaillons qu'à l'exportation.
Thank you.
vous dites les secrets de Calvin, levant tous ses secrets, voyons sa véritable personnalité. Mais souvent, ses détracteurs lui ont imposé cette image de caricature, de personnage triste. Alors c'est vrai que vous allez peut-être nous dire deux, trois mots sur sa santé.
Sa santé était triste, effectivement.
Sa santé était triste.
Il avait une mauvaise santé.
Oui, mais vous parlez d'un personnage de conviction qu'on ne voit pas souvent surgir quand on parle de Calvin. Un personnage de communication, comme on a pu l'écouter devant ses micros, des propos tenus par d'autres intervenants qui plaidaient en faveur de Calvin, une personne de communication et qui savait enflammer, qui savait communiquer, qui savait parler, qui savait communiquer sa foi.
Oui, moi je crois que le reproche de rigorisme qu'on a adressé à Calvin, on aurait pu le retourner contre bien de ses contemporains du XVIe siècle, ça me paraît évident. Quelles que soient les églises d'ailleurs, il ne faut pas imaginer que le catholicisme ne connaissait pas aussi ces épisodes de rigorisme au même moment. Dans le Concile de Trente aussi, il y a un certain nombre. Par exemple, je travaillais il y a quelques années sur quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Palestrina. Bon, Palestrina, le grand compositeur italien du XVIe siècle. Et Palestrina, lorsqu'il compose sa musique, eh bien, va encourir un certain nombre de reproches de la part des Romains, pour lesquels il écrit justement, parce qu'on se demande si sa musique véritablement conduit à l'édification. C'est évident qu'il y a un côté suave, et voire sensuel, dans la musique de Palestrina, et que les hommes d'église du XVIe siècle, de l'église catholique, pouvaient reprocher aussi à un compositeur ses faiblesses sur ce plan. Donc je crois, si vous voulez, il n'y a pas un protestantisme d'un côté qui aurait été rigoriste, et puis un catholicisme qui ne l'aurait pas été. Je crois que c'est totalement faux, que le rigorisme, c'est une attitude commune à l'ensemble des églises chrétiennes au XVIe siècle, avec des degrés divers, avec des formes différentes, mais fondamentalement, ça n'est pas du tout une spécificité calviniste. Alors, ce qui s'est passé, c'est que très souvent, on a une image qui est une image victorienne. Et image victorienne de la période, on fait de Calvin, dans le fond, un puritain, au sens un peu du XIXe siècle. Mais je pense que c'est une image qui est totalement fausse. Moi, ce qui m'a frappé, par exemple aussi, c'est de voir chez Calvin, en particulier dans ses prédications, il y a des passages très beaux sur la nature, il y a un amour de la nature, et il parle des étoiles, il parle des lacs. Enfin, c'est pas du tout un personnage complètement enfermé, insensible. Je crois que vraiment, là, il a été victime d'une image caricaturale.
Alors, vous posez la question dans la revue Histoire, Calvin était-il fanatique?
C'est la question qu'on m'a posée. Alors, je l'ai reprise, oui.
Et qui avez-vous répondu?
Ah ben, j'ai répondu non. J'ai répondu non, parce que le mot fanatique, c'est un mot d'abord qui me paraît impropre. C'est un mot
ultérieur. Alors, évidemment, on pense à Servet, on pense au bûcher.
Ben, vous savez, malheureusement, au XVIe siècle, on brûlait relativement facilement. Pourquoi est-ce qu'on brûlait les gens? Alors, ça, c'est une bonne question. Et ensuite, qui brûlait-on? Alors, on brûlait les hérétiques. Et on brûlait aussi les sorciers et les sorcières. Or, en réalité, on a brûlé beaucoup plus de sorciers et de sorcières à Genève, du vivant de Calvin, que d'hérétiques. Donc, on pense toujours à Servet, et ce pauvre Servet, qui effectivement a été condamné au bûcher.
Mais beaucoup de personnes qui s'adonnaient à la superstition, etc.
Il y en a d'autres qui ont été brûlés à Genève en même période, des sorciers et des sorcières. On n'en parle jamais. Je ne sais pas ce qu'ils professaient comme croyance, ceux-là. Mais en tout cas, et Calvin adhère à la vulgate qui circule à ce moment-là. Il croit effectivement à la sorcellerie, il croit qu'il y a des sorciers, il croit qu'il est légitime de les brûler. Bon, au XVIe siècle, pratiquement tout le monde croyait des choses pareilles. Il y avait quelques personnes qui s'opposaient. Il y a eu Castelion, évidemment, comme notre ami le pasteur Schmitt l'a si bien montré, qui avait une autre conception de humaniste.
Donc le diable était dans la cité.
Mais que le diable soit dans la cité, malheureusement, tous les hommes du XVIe siècle le croyaient. Y compris un grand esprit comme Jean Bodin, l'auteur de La République, qui fait un texte sur la démonomanie des sorciers. Et dans ce texte, il vous parle du loup-garou. Donc, un grand esprit comme Jean Bodin croyait à l'existence du loup-garou.
Et l'attitude de Calvin par rapport au diable?
L'attitude de Calvin me paraît, justement, j'allais dire, relativement mesurée. Je crois que Calvin est cru au diable et la présence du diable, ça me paraît évident. Moins que Luther. Enfin, de façon moins directe que Luther. Vous savez, quand on visite la Wartburg en Allemagne, il y a cet endroit où vous montre la tache d'encre qu'aurait fait Luther en jetant un encrier contre le diable. Donc je crois que la proximité du diable est un peu plus forte dans la théologie de Luther que dans la théologie de Calvin, mais c'est un homme du XVIe siècle, il a les limites d'une certaine façon du XVIe siècle. Il n'était pas plus fanatique, entre guillemets, que la quasi-majorité de ses compatriotes et de ses concitoyens.
Pourquoi avoir consacré un passage de cet article passionnant au rapport qu'entretenait Calvin avec l'argent ? Il y a des choses intéressantes et spécifiques à dire par rapport ?
Alors, personnellement, j'émets toujours des très fortes réserves face à cette question. Mais comme c'est une question qui revient en permanence, les gens de l'histoire m'ont dit, écoutez, il faut que vous répondiez parce qu'on va nous poser ou vous poser ou nous
poser. Il faut enlever tous les secrets, vous l'avez promis.
Voilà. Bon, alors. On va répondre. Alors, il y a une coïncidence fâcheuse. Calvin est à Genève au XVIe siècle, il n'a jamais été genevois, entre guillemets, c'est un Français exilé à Genève au XVIe siècle, il n'a jamais été citoyen genevois, il n'acquiert la bourgeoisie de Genève qu'à la fin de sa vie, et Genève, à partir du XVIIIe siècle, devient une sorte de haut lieu de la finance internationale et un lieu de banque, enfin tout à fait remarquable. Donc on a voulu instituer une relation entre les deux, et donc Calvin devenait l'inventeur du capitalisme, et comme un mal vient rarement seul, on en a fait aussi l'inventeur du socialisme. Ce qui veut dire qu'à ce compte-là, on se demande un peu ce que Calvin n'aurait pas inventé s'il a inventé à la fois le capitalisme, le socialisme,
c'est beaucoup pour
les droits
homme.
De l'homme, les droits des femmes, etc. Moi, je trouve que c'est charmant de le prétendre, mais je crois que ce sont un peu des raccourcis. Donc il y a des raccourcis, curieusement, il y a des raccourcis négatifs, c'est-à-dire la rigueur, etc. Et puis il y a des raccourcis qui sont des raccourcis positifs. Il a inventé tout ce qui est moderne. Moi, je dirais non. Rendons à César ce qui est à César et à Calvin ce qui est à Calvin. Il n'a pas inventé le monde moderne. Il a participé, je crois, à son éclosion.
En allant à l'essentiel, Bernard Cotteret, quelques mots sur la création, sur ce qu'a fondé dans la ville de Genève Jean Calvin. Calvin, homme religieux, Calvin, homme politique, quel part entre les deux, quel vase communicant entre le pouvoir et la religion, comment a-t-il voulu faire vivre cela à ses contemporains? En allant à l'essentiel, qu'est-ce qui vous paraît prioritaire de nous dire par rapport à la création à l'intérieur de la ville de Genève et la prise de responsabilité de Jean Calvin? Qu'est-ce qu'il a apporté à cette ville et à ses contemporains?
Je crois que ce qu'il a apporté de plus fondamental à la ville de Genève et par dérivation à beaucoup de cités qui se sont inspirées peu ou prou de Genève, c'est dans le fond la revalorisation de la politique, puisque Calvin écrit ce texte sur l'institution de la religion chrétienne, qui est en même temps une extraordinaire réflexion sur la cité, sur les lois, sur le rôle des lois. Et pour Calvin, la cité, la politique ne sont absolument pas des faits de nature, mais ce sont bien des faits de culture. Je crois qu'il y a une volonté chez lui de traiter déjà de la société comme une construction, c'est-à-dire que la construction dépend d'une volonté qui est une volonté humaine. Donc il ne s'agit pas de subir la société, mais il s'agit bien de la créer, de la recréer, de la fonder, de la refonder. Et donc c'est là, je trouve, que l'expérience de la Genève du XVIe siècle est tout à fait déterminante pour nous tous, dans le fond. C'est que, vous savez qu'au moment de la Révolution américaine, on s'intéresse effectivement à ce qui s'est passé à Genève. Au moment de la Révolution française aussi, on a été marqué d'une certaine façon par ce qui s'était passé à Genève. Et cette idée que la société est une organisation consciente d'elle-même, ça c'est véritablement, je crois, ce qui fait la grandeur de la cité calviniste et qu'on retrouve dans notre conception de la politique. Quand vous prenez par exemple la question de la loi dans l'institution de la religion chrétienne, Calvin dit des choses extraordinaires, il dit « la loi, c'est un magistrat muet ». Je trouve que c'est très très beau, cette volonté effectivement d'instituer à chaque fois un respect qui est un respect de la loi, un respect qui est un respect du droit. Fonder la société sur le droit, ça c'est véritablement le pari de Genève. Et je crois que nos amis suisses n'ont pas trop mal réussi quand on voit ce qui est devenu Genève, en particulier sur le plan international. C'est quand même un symbole extraordinaire, un symbole de rencontre entre les nations. Et j'espère que ce rôle-là, Genève va continuer à jouer longtemps.
Bernard Cotteret, vous venez de faire paraître chez Fayard un magnifique ouvrage intitulé « La royauté au féminin », Élisabeth Ier d'Angleterre. quel était justement le regard d'Élisabeth sur Genève? Y a-t-il une correspondance peut-être entre elle et Calvin?
Alors, Élisabeth Ier ne supportait pas Jean Calvin, ne le supportait pas pour plusieurs raisons. D'abord, elle ne le supportait pas politiquement parce que vous savez que John Knox, le réformateur écossais, avait écrit un brûlot absolument épouvantable sur les femmes, disant que les femmes ne devaient pas exercer de pouvoir politique. Évidemment, c'était plutôt malvenu au moment où Élisabeth Ier allait prendre le pouvoir en Angleterre. C'est une maladresse insigne. Donc, elle fait écrire à Calvin en disant « Est-ce que ce monsieur Knox ne s'est pas trompé un peu ?» Et Calvin met les pieds dans le plat en disant « Non, pas du tout. » Donc, bon,
ah bon,
il avait quand même un peu aggravé son cas, le pauvre Calvin, mais je crois que c'était de l'innocence de sa part. En tout cas, il était bien convaincu de ce qu'il avait répondu, ce qui fait qu'Élisabeth n'aime pas du tout Calvin. Élisabeth n'aime pas non plus le type de protestantisme qu'incarne Calvin parce qu'elle est attachée en fait à une église qui est une église beaucoup plus conservatrice, du moins dans ses formes. Je ne parle pas ici des dogmes en tant que tels, je parle véritablement des formes. Élisabeth aime bien qu'il y ait des autels et qu'il n'y ait pas simplement des tables de communion. Elle aime bien qu'il y ait qu'il y ait quelques bougies sur un autel. Elle aime bien que les officiants aient une tenue ecclésiastique repérable. Enfin, il y a chez elle un certain conservatisme qui n'est pas tellement un conservatisme doctrinal, mais qui est un conservatisme liturgique. Et dans le fond, qu'on retrouve peu ou prou dans l'anglicanisme ultérieur. Donc, Élisabeth n'aime pas tellement le calvinisme, entre guillemets. Alors, ceci dit, ce qui est extraordinaire au XVIe siècle, c'est qu'on voit ce pays, qui est le pays d'une réforme modérée, sinon de la réforme la plus modérée, va devenir, aux yeux de l'ensemble de l'Europe, parce que justement, elle va s'opposer aux puissances catholiques, et en particulier à la puissance espagnole, va devenir véritablement le fer de lance de la réforme dans le monde. Et les Genevois, à ce moment-là, dans les années 1580-1590, se tournent vers l'Angleterre en disant « Est-ce que vous pourriez nous aider un peu ? Est-ce que nous pourrions organiser une vaste collecte pour nous venir en aide contre les Savoyards ?» Et à ce moment-là, évidemment, Genève et l'Angleterre s'entendent remarquablement bien parce qu'il y a un ennemi commun malgré tout qui est l'Espagne.
Ah, très bien. Donc, il y a eu un grand accord entre eux, une solidarité.
Une grande solidarité, mais je crois que sur le plan confessionnel strict, Élisabeth Ier était
puis,
au
notre
milieu
ami
du calvinisme.
Et puis, Calvin a mal répondu à la question,
ah,
bah, sur la question des femmes.
Il n'aurait pas dû.
Bernard Cottret, merci d'avoir partagé cette heure de réflexion, cette heure d'histoire autour de la personnalité de Jean Calvin. Je rappelle donc que nos auditeurs peuvent se référer au mensuel « L'histoire, le mystère Calvin, qui était-il vraiment ?» par Bernard Cottret. Et puis pour en savoir plus sur cette royauté au féminin, Élisabeth Ier d'Angleterre, chez Fayard, votre ouvrage qui vient de paraître, Bernard Cottret. Merci et
merci
à bientôt.
Virginia.
Au revoir.